Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme consacré en ce mercredi 20 novembre essentiellement à la traditionnelle audience générale du pape. Le charisme est le don fait pour le bien commun, le pape l'a affirmé dans sa catéchèse, les détails dans quelques instants. L'actualité politique et sociale en Afrique concerne le Mozambique, l'Ouganda et le Burkina Faso, entre autres. La deuxième partie de ce programme est dédiée à l'invité du jour. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec la tenue de l'audience générale.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape François a poursuivi mercredi 20 novembre son cycle de catéchèses en mettant en lumière les divers dons de l'Esprit-Saint ou charismes en tant qu'outils vitaux pour l'unité et le service dans l'Église. François a ensuite souligné leur finalité pour le bien commun et leur enracinement dans l'amour. D'autres précisions avec Augustine Asta.
Due elementi contribuiscono a definire cosa è il carisma.
Le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'esprit et l'épouse en invitant les fidèles à réfléchir sur les charismes qui représentent pour lui les dons divers et uniques de l'esprit. Se référant à la lecture du jour tirée des paroles de saint Paul aux Corinthiens, François a souligné deux éléments clés qui définissent les charismes. Premièrement, a-t-il dit, ils sont donnés pour le bien commun, destiné non seulement à la sanctification personnelle, mais aussi à l'édification de l'Église. Deuxièmement, a-t-il poursuivi, ils sont distribués de manière unique et adaptée aux individus selon la volonté de l'Esprit. Les charismes sont les joyaux ou les ornements que l'Esprit Saint distribue pour embellir l'épouse du Christ, a-t-il déclaré. L'évêque de Rome a ensuite souligné que la redécouverte des charismes permet de faire en sorte que la promotion des laïcs, et en particulier des femmes, soit comprise non seulement comme un fait institutionnel et sociologique, mais aussi dans sa dimension biblique et spirituelle. Pour conclure sa catéchèse, le souverain pontife a précisé que les charismes ne se limitent pas seulement à des manifestations extraordinaires ou spectaculaires, mais sont souvent des dons ordinaires dotés d'une valeur extraordinaire lorsqu'ils sont inspirés par l'amour et l'esprit.
À l'issue de l'audience générale qui se tenait mercredi 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant, le pape a annoncé un sommet au Vatican en 2025 pour les droits des enfants ainsi que la canonisation durant le jubilé de deux jeunes laïcs italiens, Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Les détails avec Fabrice Bandecchieri.
Aimez-les et protégez-les. Tel est le thème choisi pour cette rencontre mondiale sur les droits des enfants qui se tiendra au Vatican le 3 février 2025. Il réunira des experts du monde entier avec pour mission de discuter sur les nouvelles méthodes pour aider et protéger les millions d'enfants qui n'ont toujours pas de droits, vivent dans des conditions précaires, les enfants exploités et maltraités, subissant les conséquences dramatiques des guerres. Le pape François a également annoncé les dates de canonisation des deux bienheureux pour l'année à venir. L'adolescent d'Assise, Carlo Acutis, devrait devenir le premier saint millénaire lors du jubilé des adolescents qui aura lieu du 25 au 27 avril 2025. Le deuxième nouveau saint sera Pier Giorgio Frassati, qui, 35 ans après sa béatification, devrait être canonisé lors du jubilé des jeunes qui se tiendra du 28 juillet au 3 août 2025. Surnommé le GEC de Jésus, Carlo Acutis a ouvert la voie à une évangélisation sur Internet. Il y avait mis sa créativité à l'œuvre avec son exploitation sur les miracles eucharistiques. Déclaré patron des JMJ de Lisbonne 2023, Pier Giorgio Frassati continue lui aussi d'inspirer des milliers de jeunes chrétiens. Le pape François présidera donc sa messe de canonisation un siècle après sa mort.
Signalons que le pape a créé un comité pontifical pour la journée mondiale de l'enfance. Il l'a confié à ce nouvel organe du Vatican, annoncé mercredi 20 novembre par un chirographe, la tâche d'assurer l'animation ecclésiale et l'organisation pastorale de l'événement annuel concernant les enfants les plus jeunes. Le père Enzo Fortunato a été nommé président. 1000 jours de souffrance, 1000 jours d'amour. Le pape François est revenu sur la guerre en Ukraine, dénonçant une catastrophe honteuse pour toute l'humanité. Il a renouvelé son appel à la paix et a demeuré aux côtés du peuple ukrainien martyrisé. Il a lu aux fidèles la lettre d'un jeune ukrainien l'implorant de parler de sa foi et de son amour, qui donne un sens à ses blessures. Xavier Bonnel.
Ieri si sono compiute 1000 giorni dall'invasione dell'Ukraina.
Hier, 1000 jours se sont écoulés depuis l'invasion de l'Ukraine. Un événement tragique en termes de victimes et de destruction causée. Mais en même temps, c'est une catastrophe honteuse pour l'ensemble de l'humanité. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'être aux côtés du peuple ukrainien martyrisé, de plaider pour la paix et d'œuvrer pour que les armes cèdent la place au dialogue et la confrontation à la rencontre. Avant-hier, j'ai reçu une lettre d'un jeune universitaire ukrainien qui disait « Père, s'il te plaît, ne parle pas seulement de nos souffrances, mais témoigne aussi de notre foi. Père, si la douleur fait mal, c'est que tu aimes. Alors quand tu parles de notre douleur, quand tu te souviens des 1000 jours de souffrance, souviens-toi aussi des 1000 jours d'amour. » Parce que seul l'amour, la foi et l'espoir donnent un vrai sens aux blessures.
Le pape François a rendu hommage à l'Église catholique en Iran lors d'une rencontre dans la matinée de mercredi 20 novembre avec les participants au colloque entre le Dicaster pour le dialogue interreligieux et le Centre pour le dialogue interreligieux et interculturel de Téhéran. Il a rappelé, outre les défis communs dans le domaine familial, que la liberté de conscience et la liberté religieuse sont la pierre angulaire des droits de l'homme. Le dimanche 24 novembre, dernier dimanche de l'année liturgique B, est marqué par la solennité du Christ, roi de l'univers, et la célébration de la 39e journée mondiale de la jeunesse autour du thème « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer ». La messe présidée par le pape aura lieu dans la basilique Saint-Pierre à partir de 9h30 heure de Rome et sera retransmise en français sur les ondes courtes de 17 555 kHz pour l'Afrique de l'Ouest.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au Soudan, quelques 40 personnes ont été tuées lors d'une attaque des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR sur un village dans l'état d'Al Jazeera dans le centre du pays, ravagé par plus d'un an et demi de guerre. En Ouganda, le gouvernement a annoncé mercredi enquêter sur la situation de l'opposant Kizza Besigye après que son épouse ait affirmé qu'il a été kidnappé samedi alors qu'il se trouvait à Nairobi, au Kenya, à l'occasion de la sortie d'un livre d'une figure de l'opposition kenyane, Martha Karua, et transféré dans une prison militaire d'Ouganda. L'opposant mozambicain Venancio Mondlane a appelé ses partisans à 3 jours de deuil à partir de mercredi 20 novembre, suite, selon lui, à l'assassinat de 50 personnes par les forces de sécurité lors des manifestations qui ont suivi les élections contestées d'octobre. Une manifestation a eu lieu mardi à Séba, dans le nord-est du Burkina Faso, pour demander un renforcement de la sécurité et le ravitaillement des deux communes sous blocus de groupes djihadistes. Séba et Solande, situées dans la province de Yaga, vivent sous blocus djihadiste depuis plusieurs mois et dépendent des ravitaillements effectués sous escorte militaire. Les populations vivent nuit et jour sous la menace et les écoles sont toujours fermées, 2 mois après la rentrée des classes. À propos de fermeture des classes, Ishaka Adegboye nous fait part de la même situation au Nigeria où une 50aine de millions d'enfants nigériens n'ont pas accès à l'école.
Les facteurs qui contribuent à l'incidence des enfants non scolarisés comprennent, sans toutefois s'y limiter, le mariage précoce d'enfants, les obstacles économiques, les conflits, les normes socioculturelles et l'absence de politique dans les écoles. Ces obstacles à l'offre et à la demande peuvent conduire à l'une des ensembles des situations suivantes. Inscription tardive d'un enfant en âge d'aller à l'école, un enfant qui n'ira jamais à l'école, un enfant qui ira à l'école mais abandonnera plus tard ses études. La combinaison des barrières de l'offre et de la demande en matière d'accès à l'éducation a conduit et continue de contribuer au grand nombre d'enfants non scolarisés au Nigeria. Des efforts tant gouvernementaux que non gouvernementaux sont nécessaires pour faire face à la situation actuelle en utilisant des innovations éducatives telles que le programme d'éducation accélérée combiné et d'autres interventions conventionnelles telles que la reconstruction et l'extension des infrastructures, une grande sensibilisation à l'inscription, une intervention économique et une sécurité améliorée et à l'application de la loi. Ishaq Adeboye, Radio Vatican, Abuja.
En Tanzanie, le principal parti d'opposition, le Chadema, a protesté mardi contre la disqualification injuste de plusieurs de ses candidats aux élections locales prévues le 27 novembre. Le président du Chadema, Freeman Mbowe, a déclaré que le parti avait prévu de présenter les candidats à hauteur de 65%, mais que le chiffre a été réduit à environ 33%.
Invité du jour.
L'église du Burundi a commémoré mardi 19 novembre le 19e anniversaire du décès de Mgr Bernard Bududira, qui fut évêque de Bururi et fondateur de l'Institut Famille des Disciples du Christ. Dans une interview accordée à Radio Vatican, la sœur Denise Ntangarurwa, première religieuse de l'Institut, offre un témoignage sur son engagement dans le développement intégral de l'homme, en particulier dans le secteur de l'éducation. Sœur Ntangarurwa mentionne l'héritage que Mgr Bernard a légué à son Institut. On l'écoute.
Mgr Bernard Bududira, pour nous, fut un homme de Dieu et un homme pour les hommes. Il était passionné pour Dieu, passionné pour l'humanité. Et Mgr Bernard Bududira nous a laissé un beau témoignage de foi et d'amour. Il était un apôtre bien rempli d'humanisme, de bonté, de fraternité, d'humilité, de charité pour tous. Ça se voyait surtout dans des moments, parce qu'il a été élu évêque dans des moments difficiles. Il s'occupait beaucoup de démunis et des pauvres. Ils imploraient pour leur survie. Et il a créé des œuvres pour les orphelinats, pour les enfants de la rue et pour un centre des handicapés. Et il se préoccupait beaucoup sur le développement intégral de l'homme. Et c'est pour ça qu'il a promis le développement intégral de l'homme à travers les œuvres et l'éducation. Et ce qui aussi a distingué Mgr Bernard Bududira, c'est vraiment un homme, un pasteur, et un homme de l'Église du Burundi, mais aussi une Église universelle.
Sœur Denise, vous avez eu la grâce de collaborer avec Mgr Bernard Bududira, le fondateur d'ailleurs de votre institut, l'Institut Famille des Disciples du Christ, FDC en sigle. Que pourriez-vous nous dire sur l'héritage que Mgr Bernard a légué et dont les membres de votre institut continuent de s'inspirer?
Mgr Bernard Bududira nous a légué principalement le charisme parce qu'il est notre fondateur. Le charisme qui est de promouvoir les communautés ecclésiales vivantes, témoins de l'amour du Christ. Et il avait dans ce charisme, il prévoyait de la formation des laïcs théologiques pour la promotion et la construction de l'Église, pour qu'ils deviennent aussi évangélisateurs. Évangélisateurs de ces communautés, évangélisateurs partout où on les envoie. Donc, il nous faisait aimer la lecture de la parole de Dieu, sa méditation, le partage de la parole de Dieu et l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, c'est notre spiritualité qui est aussi alimentée par le sacrement de l'Eucharistie, qui est le centre et le sommet de notre spiritualité. La parole de Dieu et l'Eucharistie sont des sources fondamentales lesquelles nous devons nous ressourcer constamment pour nourrir notre charisme.
Parmi les éléments d'héritage de Mgr Bernard que vous avez mentionné, vous avez mis l'accent sur l'évangélisation des communautés de base. En tant que chargé de la formation des laïcs associés de la FDC, pourriez-vous nous dire en quoi consiste cet apostolat auprès des fidèles, des laïcs, sur les pas de Mgr Bernard Bududira?
Comme pour d'autres vocations, des laïcs que je forme se sentent attirés par la vocation des disciples du Christ, le charisme. Et il faut la demande, les laïcs font la demande d'entrer, puis on les écoute, puis on les reçoit, on les accueille. Après les avoir accueillis, moi j'explique bien le charisme de l'Institut, la spiritualité, les patrons de l'Institut. Ensuite, je donne des cours de Bible, de théologie, de morale, sur l'Église, sur la Christologie, Mariologie, et sur le sens de l'engagement dans l'apostolat, et pendant 3 ans. Et après 3 ans, c'est les laïcs qui font une prière, prononcent une prière d'engagement comme membre associé à notre institut.
Vous êtes la première religieuse de cet institut et vous l'avez dirigé pendant plus de 25 ans. Avec votre expérience, quels pourraient être aujourd'hui les défis qui se présentent à votre institut, d'autant plus que le nombre des membres ne cesse de s'accroître, faisant appel à d'autres perspectives pour la congrégation?
Actuellement, il y a des demandes. Et donc, moi, comme ancienne, je vois qu'il y a beaucoup de demandes, non seulement pour nous, mais dans d'autres congrégations, même plus dans d'autres congrégations que chez nous. Mais je vois qu'il faut faire attention dans l'animation. Avant de les accueillir, il faut vraiment engager une animation de vocation, un accompagnement pour les aider à faire bien le discernement. Et puis, je vois que si ces demandes continuent à être nombreuses, ça fait appel aux infrastructures d'accueil. Et heureusement, pour notre institut, nous avons des endroits. Un noviciat bien retiré et bien vaste pour l'accueil. Et il y a aussi assez de noviciats qui accueillent les nouvelles candidates. Et je vois aussi dans l'animation de vocation, il faut aussi faire attention au niveau de la formation préparatoire parce que nous avons dans la mission des exigences. Il y a aussi les exigences des problèmes que présente le monde d'aujourd'hui. Il faut aussi que on puisse avoir des membres qui font face à ces problèmes et aussi qui comprennent bien notre charisme.
Sœur Denise Tangaroua, membre de l'Institut Famille des Disciples du Christ au Burundi, propos recueillis par Christian Losambe.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.